Savoie, Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 24 novembre 2021. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed s'est rendu au front pour mener la bataille contre les rebelles. Au Cameroun, 3 élèves et une enseignante ont été tués dans l'attaque d'un lycée en région anglophone. Le premier ministre soudanais Abdel Hamdok ordonne l'arrêt des limogeages par les putschistes. Le Maroc et Israël ont conclu un accord militaire historique à Rabat. Polémique sur la liste des participants au sommet pour la démocratie de Joe Biden. La Chine et la Russie ne sont pas invités. Après le journal, ce sera l'économie et les sports. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed est allé au front aujourd'hui comme promis pour mener la bataille contre les rebelles, indiquent les médias d'État. En son absence, c'est le vice-premier ministre Demeke Mekonnen Hassen qui prend en charge les affaires courantes. Le point avec Jacques Aristide.
Abiy Ahmed a revêtu le treillis de chef de guerre. Avant-hier, le chef du gouvernement a dit vouloir personnellement mener les troupes pour affronter les rebelles tigréens et leurs alliés, alors que le conflit se rapproche de la capitale Addis Abeba. Rencontrons-nous sur le front de la guerre. Le moment est venu de diriger le pays avec sacrifice, écrit Abiy Ahmed. Sa déclaration a encouragé le recrutement dans les rangs de l'armée à l'image du marathonien et médaillé d'argent olympique Feyisa Lilesa, qui a rejoint des milliers d'Éthiopiens ordinaires désireux de suivre l'exemple de leur premier ministre. Addis Abeba a expulsé 4 diplomates irlandais après l'appel de Dublin à la fin des hostilités, alors que davantage de pays demandent à leurs ressortissants de quitter l'Éthiopie. De son côté, l'ONU va évacuer d'ici demain les familles de ses employés. La communauté internationale craint une escalade susceptible de faire échouer les efforts en vue de négocier un arrêt des combats.
Au Cameroun, 3 élèves et une enseignante ont été tués ce mercredi dans l'attaque d'un lycée du sud-ouest anglophone, a indiqué la télévision nationale. L'enseignante du lycée bilingue Dekondo Titi est morte de ses blessures sur le chemin de l'hôpital, a précisé Roger Kafofoku, secrétaire général du syndicat national autonome de l'enseignement secondaire. Plusieurs blessés ont été hospitalisés. Les forces de défense et de sécurité tentent de retrouver les assaillants. À l'ouverture d'un forum économique à Kinshasa pour le développement d'une chaîne de production africaine, le président congolais Félix Tshisekedi a déclaré que la RDC est la destination la plus compétitive du monde pour produire des batteries pour véhicules électriques, mettant en exergue le faible coût d'investissement sur son territoire. Le DRC Africa Business Forum se déroule sur 2 jours en présence notamment du président zambien Hakainde Hichilema, de délégués de plusieurs pays et de grandes firmes internationales. Au Soudan, le premier ministre Abdel Hamdok, qui a repris son poste dimanche, ordonne l'arrêt des limogeages. Il a dit vouloir réexaminer toutes les nominations annoncées durant sa détention dans la foulée du coup d'État du 25 octobre. Le point avec Nani Talani.
Dans un communiqué, Abdallah Hamdok ordonne l'arrêt immédiat des limogeages et des embauches dans les institutions publiques locales et nationales jusqu'à nouvel ordre. Il a ajouté que les embauches et limogeages décidés récemment seront étudiés et réexaminés. Il a pu obtenir la libération d'une poignée de politiciens, mais de son propre aveu, des dizaines d'autres sont toujours en détention. Le Premier ministre n'a toujours pas de gouvernement depuis sa réinstallation dimanche, au terme d'un accord controversé avec le général Burhan. L'ancien économiste onusien, devenu le visage civil de la transition, est sous le feu des critiques. 12 ministres sur 17, issus du bloc réclamant un pouvoir uniquement civil, ont démissionné lundi, rejetant la stratégie de dialogue avec l'armée adoptée par M. Hamdok. Et la rue, qui l'accuse de trahison, entend maintenir la pression. Sur les réseaux sociaux, des militants appellent à faire ce jeudi la journée des martyrs, appelant à de nouvelles manifestations, malgré la répression qui a fait depuis le 25 octobre au moins 41 morts et des centaines de blessés.
La Tanzanie a pris la décision d'autoriser les étudiantes enceintes et les mères adolescentes à poursuivre leurs études. Balayant l'interdiction mise en place par le défunt président John Magufuli. En 2017, le pays avait commencé à expulser des filles enceintes des écoles publiques et à leur interdire de retourner en cours après avoir accouché. Lors d'une cérémonie à Dodoma, la ministre de l'Éducation Joyce Ndalichako a déclaré que les écolières enceintes seront autorisées à poursuivre leurs études. Au Nigeria, des hommes armés ont tué un policier et en ont blessé un autre hier dans le sud-est du pays, indiquent les autorités locales. Les hommes ont incendié le quartier général de la police divisionnaire à Arundizogu, dans le district d'Ideato, dans l'état d'Imo, tuant un policier, a déclaré le porte-parole de la police de cet état, Michael Abatam. Le commissaire de police a également été blessé lors de l'attaque. Au Burkina Faso, les syndicats et l'opposition s'insurgent dans un communiqué contre la coupure d'Internet depuis samedi, alors que se déroulent des manifestations contre le pouvoir, accusé d'impuissance face aux attaques djihadistes. Lundi, le ministère de la Communication a invoqué des raisons de sécurité pour justifier la suspension pendant 4 jours. Les syndicats, y compris ceux de la presse, ont exigé le rétablissement immédiat de l'Internet mobile, tandis que la connexion via la fibre optique est toujours possible pour très peu d'usagers. Un accord militaire sans précédent a été conclu entre le Maroc et Israël. Le texte a été signé ce mercredi lors d'une visite historique à Rabat du ministre israélien de la Défense, Benny Gantz. Le point avec Abdourahman Dia.
Benny Gantz, ancien chef de l'armée israélienne, a été reçu en début de matinée par le ministre délégué chargé de l'administration de la défense nationale marocaine, Abdellatif Loudouyi. Ils ont signé un protocole d'accord qui lance formellement la coopération sécuritaire sous tous les aspects, notamment le planning opérationnel, les achats d'armes, la recherche et le développement. L'accord est signé un an à peine après la normalisation des relations entre les deux pays. L'objectif est de faire face aux menaces et défis dans la région, selon la partie israélienne. Avant son départ de Tel Aviv, mardi soir, Benny Gantz avait évoqué un voyage important au Maroc qui a une touche historique, car il s'agit de la première visite formelle d'un ministre de la Défense dans ce pays. Le Maroc et Israël avaient établi des relations diplomatiques au début des années 90, avant que le Maroc n'y mette fin au début de la seconde Intifada, le soulèvement palestinien du début des années 2000. Israël et le Maroc ont renoué leurs relations en décembre 2020 dans le cadre d'un processus de normalisation des relations entre l'État hébreu et des pays arabes soutenus par l'administration de l'ex-président américain Donald Trump.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden va organiser en décembre un sommet virtuel pour la démocratie. Une centaine de pays doivent y participer, mais la liste des invités suscite déjà une polémique. Mohamedou Oumfa nous en dit plus.
110 pays sont invités selon la liste mise en ligne sur le site internet du département d'État. Il y a bien sûr les principaux alliés occidentaux des États-Unis. Joe Biden a aussi invité le Brésil, pourtant dirigé par le président d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Au Moyen-Orient, seul Israël et l'Irak ont été conviés à cette réunion en ligne qui aura lieu les 9 et 10 décembre. Côté africain, la République démocratique du Congo, le Kenya, l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Niger sont invités. La Turquie, membre de l'OTAN, n'est pas invitée, tout comme les alliés arabes traditionnels que sont l'Égypte, l'Arabie Saoudite et la Jordanie. La Chine non plus n'est pas conviée à la différence de Taïwan, ce qui suscite la colère de Pékin. Pour la Russie, les États-Unis préfèrent créer de nouvelles lignes de division, diviser les pays en bons selon eux et mauvais selon eux. Le sommet pour la démocratie est une promesse de campagne de Joe Biden. Il a pour but d'encourager les dirigeants à prendre des engagements, sinon annoncer des actions concrètes pour lutter contre les dictatures, combattre la corruption et promouvoir le respect des droits humains.
En Martinique, l'intersyndicale à l'origine de la grève générale lancée lundi appelle à la levée des barrages après des violences survenues hier et des tirs à balles réelles contre les forces de l'ordre. La Guadeloupe et la Martinique sont secouées par un mouvement de contestation sociale émaillé de violences avec des tirs contre la police et les pompiers. Le parquet de Fort-de-France a ouvert une enquête sur ces tirs. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par John Linden.
Le résultat net de la société Uniwax SA, spécialisée dans la confection de textiles, a enregistré une forte hausse de 226% au premier semestre comparé à la même période en 2020, ont annoncé les dirigeants de cette entreprise basée à Abidjan. Selon Financial Afrique, ce résultat est passé d'un peu plus de 354 millions de francs CFA à plus d'un milliard de francs CFA au 30 juin 2021, soit un accroissement de 799 millions de francs CFA en valeur absolue. La Côte d'Ivoire, à travers la Direction générale du Trésor, vient de lever 49 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine au terme de son émission de bons de soutien et de résilience de maturité 364 jours. Cette levée de fonds est organisée en partenariat avec Umoa Titres basé à Dakar. La Chine a annoncé mercredi qu'elle allait puiser dans ses réserves de pétrole afin de faire baisser les coûts, prenant le relais d'une initiative lancée par Joe Biden. Le président américain avait annoncé mardi une initiative pour faire baisser les prix de l'or noir. Il annonce le prélèvement de 50 millions de barils des réserves stratégiques de Washington.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. La CAF est insatisfaite du niveau des préparations de la CAN Cameroun 2021 et menace même de faire jouer le match d'ouverture Cameroun-Burkina Faso ailleurs que sur les sites du stade d'Olembé. Elle l'a fait savoir au comité local d'organisation dans un courriel de Yaoundé, les précisions de notre correspondant Emmanuel Gelentap.
Le document de 5 pages est accompagné des photos et des sites sur lesquels la CAF émet, citation, de sérieuses inquiétudes concernant l'organisation du tournoi, fin de citation. Le secrétaire général de la CAF qui écrit au comité local d'organisation cite entre autres le retard dans l'état d'avancement des travaux extérieurs du stade d'Olembé dans la banlieue de Yaoundé, la maintenance inconstante des pelouses, cas du stade d'entraînement de Bangou dans la poule de Bafoussam qui selon la CAF est impraticable, l'absence d'informations sur le protocole sanitaire du Cameroun pendant la compétition ou encore des détails pour des facilitations des procédures douanières pour la CAF, ses prestataires et sponsors. Le Cameroun a jusqu'au 30 novembre pour mettre le stade de l'Embé à l'état. Au cas contraire, le match d'ouverture aura lieu ailleurs, peut-on lire dans le courriel de la CAF envoyé le 17 novembre dernier et qui a fuité ce matin sur les réseaux sociaux. Cette correspondance est en retard et en décalage par rapport à la réalité concrète sur le terrain, a déclaré à mi-journée sur les antennes de la radio à capitaux publics le ministre des Sports, Narcisse Moëlle-Kombi. Ce dernier a réitéré que le stade de l'Embé sera prêt et une délégation du Cameroun a été envoyée au Caire pour rencontrer les autorités de la CAF à marge des travaux de l'Assemblée générale extraordinaire. Yaoundé, Emmanuel Gelentap, VOA Afrique.
En Europe, Manchester City et le Paris Saint-Germain se disputent ce soir la première place de leur groupe en Ligue des Champions. L'AC Milan, bon dernier du groupe B avec un petit point, a une dernière chance d'éviter l'élimination précoce. Face à l'Atlético Madrid, le FC Porto veut protéger sa deuxième place à un fil contre Liverpool. Déjà certain d'être premier du groupe, derrière l'Ajax Amsterdam déjà qualifié, le Sporting Portugal et le Borussia Dortmund jouent un duel décisif à distance pour le deuxième ticket du groupe C. Dans le groupe D, très ouvert avec les quatre équipes toujours en lice pour une place en huitième, le Real Madrid se déplace chez le shérif Tiraspol et l'Inter Milan a l'occasion de sortir de la course le Shakhtar Donetsk. Karim Benzema, condamné dans l'affaire dite de la sex-tape, la star française du Real Madrid a été reconnu coupable de complicité de tentative de chantage contre son ancien équipier en équipe de France, Mathieu Valbuena. Il a écopé d'un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende. Les avocats de l'attaquant des Bleus ont immédiatement annoncé que leur client fait appel du jugement. Cette décision de justice ne devrait pas écarter Benzema de l'équipe de France. Selon le président de la Fédération Noël Le Graët et le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps, qui dit n'avoir de boussole que les performances sportives des joueurs, depuis son retour en équipe de France, Benzema compte 9 buts en 13 matchs.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Au Burkina Faso, 36 des 53 gendarmes tués lors d'une attaque djihadiste dans le nord du pays ont été inhumés hier à Ouagadougou devant une foule de parents en colère. Le 14 novembre, plus de 300 djihadistes armés ont attaqué le camp du détachement de gendarmerie d'Inata. Le dernier bilan fait état de 57 morts et 47 rescapés. Le président Roch Kabore a évoqué des problèmes de dysfonctionnement dans l'armée. Yacouba Ouédraogo a joint le colonel à la retraite, Lona Charles Ouattara.
L'armée, déjà, n'est pas bien organisée. Elle n'est pas organisée encore en grandes unités, c'est-à-dire il n'y a pas de brigade, il n'y a pas de division, il n'y a pas de corps d'armée, mais on parle quand même d'armée. Et les généraux de brigade sont nommés, les généraux de division sont nommés. Aucun ne prend un commandement puisqu'il n'y a pas d'unités qui sont créées. Donc ils servent tous soit en état-major ou dans des bureaux ministériels. Une armée comme ça, elle ne peut pas gagner une guerre. C'est pas possible.
Quelles sont les conséquences d'une telle organisation?
Ce qui amène donc à éparpiller les unités par petits bouts, avec des détachements de petits nombres. L'ennemi n'est pas bête. Il sait, parce que dans toutes les écoles militaires, on nous a appris que vous n'attaquez un ennemi que lorsque vous êtes deux à trois fois plus supérieur à lui, en nombre ou en armement. Tant qu'il y aura des éléments éparpillés dans le terrain, ce sont des cibles faciles pour l'ennemi.
On entend souvent parler du problème de commandement. Il y a eu plusieurs fois le ministère de la Défense est passé entre les mains de Roch Kabore, qui est le président, et entre d'autres mains aussi. Il y a eu des chefs d'état-major qui ont été emplacés. Récemment, avec l'attaque d'Inata, des commandants de gendarmerie ont été relevés. Est-ce qu'un véritable problème de commandement dans l'armée?
Il n'y a pas, sur le terrain, il n'y a pas de grandes unités. Les généraux ne sont pas responsables d'un commandement précis. Vous ne pouvez pas vous asseoir à Ouagadougou, envoyer des détachements sur le terrain et puis les commander. C'est impossible. Même si, admettons que les transmissions soient très, très, très efficaces, malgré ça, vous ne pouvez pas commander de manière optimum des hommes que vous envoyés par petits bouts. Je suppose qu'il y a des chefs qui ne sont pas à leur place.
À qui vous faites référence?
D'une manière générale, je vous ai dit que le TED n'était pas respecté. C'était le tableau des effectifs et des dotations. Alors, quand cela n'est pas respecté, on arrive à avoir, par exemple, des officiers subalternes qui sont envoyés pour commander des unités qui ne devraient pas normalement être commandées par ces gens-là. Par exemple, que vous envoyez un capitaine commander un régiment, ça ne peut pas se faire. Vous voyez, à la place d'un colonel, par exemple, vous pouvez nommer à la tête de l'armée tous les officiers supérieurs à tour de rôle, mais rien ne changera à partir du moment où le format militaire lui-même n'est même pas adapté.
Justement, vous parliez du tableau des effectifs et des dotations. Il a été dit que lors de la récente attaque d'Inata, les gendarmes étaient à court de munitions et même de nourriture. Comment expliquer cela?
C'est cela, les gens sont isolés. Je vous dis, ils n'appartiennent à aucune grande unité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de logistique. Apparemment, toute la logistique part de Ouagadougou. Donc, il n'y a pas de logistique de grandes unités de proximité.
Le colonel burkinabé à la retraite, Lona Charles Ouattara, était joint à Ouagadougou.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Au Cameroun, les sept principaux leaders de l'opposition présentent des propositions sur la réforme du système électoral ce mercredi à Yaoundé. Après le contentieux électoral consécutif à l'élection présidentielle de 2018, cette question divise l'opposition et le parti au pouvoir. Un reportage d'Emmanuel Juntap.
Face au déploiement de la police, les membres de la plateforme de l'opposition sur la réforme consensuelle du système électoral n'ont pu accéder à la salle réquisitionnée pour la présentation au grand public de la quintessence des travaux menés depuis le 31 mars dernier. Sostin Meda Lipote, cadre du MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun.
Pour cette simple réunion, rencontre avec les journalistes, conférence de presse, on est chassé. Alors que nous sommes les clients, ça a été payé, l'hôtel. Il y a une violation flagrante des libertés publiques et individuelles des citoyens. Mais rassurez-vous, c'est une victoire pour l'opposition.
Selon un arrêté du préfet du 3e arrondissement, la réunion de l'opposition a été interdite pour, citation, ingérence dans les compétences législatives et tenue en cours de la session parlementaire, fin de citation. Léonel Kunga 1, représentant du Social Democratic Front, le SDF, pense que la réaction du gouvernement cache une certaine frilosité.
Les partis politiques qui se sont assis la majorité ont des représentations à l'Assemblée nationale. Pourquoi est-ce qu'on doit parler d'ingérence lorsque les députés sont assis pour penser aux lois qu'ils doivent proposer que ce soit débattu à l'Assemblée? Je crois qu'il y a une peur qui s'installe lorsqu'on voit les forces de l'opposition se réunir.
Pour la porte-parole du PCRN, Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale, membre de la plateforme sur la réforme consensuelle du système électoral, la décision des autorités d'interdire une réunion de l'opposition contribue à ternir l'image du Cameroun. Anne Fegonde Biloa.
Est-ce que le sous-préfet avait besoin de créer cet incident? Parce que là encore, c'est l'occasion d'envoyer, de présenter un visage dictatorial du Cameroun, un visage dans lequel la société civile ne peut pas s'exprimer, où les formations politiques de l'opposition n'ont rien à dire, où un mouvement, une simple réunion républicaine ne peut pas s'y tenir. Le parti au pouvoir est majoritaire au Parlement. La procédure même pour aboutir à déposer une proposition de loi est relativement longue. Donc le temps que ça arrive au Parlement, qu'ils en discutent et que les députés du parti au pouvoir décident peut-être même de ne pas prendre en compte ces propositions.
Après concertation, Maurice Kamto du MRC, Pierre Kouemou de l'UMC ont laissé le soin à Patricia Ndamdjoya, présidente de l'UDC, de faire une déclaration à la presse.
L'opinion publique nationale et internationale va nous prendre à témoin aujourd'hui pour comprendre que le Cameroun est descendu au plus bas de son échelle. Et nous allons maintenant nous organiser pour que on puisse informer, communiquer. Nous avons demandé au président de la République du Cameroun de faire en sorte que le parti politique qui est majoritaire au Cameroun de pouvoir nous répondre.
Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Les États-Unis vont restituer des objets culturels au Mali. La douane américaine avait intercepté au port de Houston en 2009 une cargaison illégale en provenance du Mali contenant plus de 900 objets funéraires et des reliques datant du néolithique. Les efforts de restitution de ces artefacts avaient été interrompus à cause de la situation au Mali. Pour mieux comprendre les dangers du trafic illicite de biens culturels, Modibo Dembélé a joint le directeur du Musée national du Mali, Daouda Keïta.
Finalement, nos biens culturels reviennent à la maison. Les biens culturels sont sortis frauduleusement du territoire malien. Et ils ont été interceptés par la douane américaine qui nous remet. C'est comme si on nous remet une partie de notre histoire. C'est comme si on nous remettait une partie de notre patrimoine culturel. C'est comme si on nous remettait une partie de notre identité. C'est l'occasion pour moi de remercier la partie américaine pour le travail colossal abattu et aussi pour leur générosité.
Quel est le nouveau dispositif que vous allez mettre en place pour lutter contre les pillages des objets culturels au Mali?
Déjà, il y a des textes de loi qui existent en la matière et qui réprimandent le trafic illicite des biens culturels et le pillage des sites archéologiques. Mais malheureusement, ces textes ne sont pas suffisamment connus. Donc je pense qu'il serait important pour nous de procéder à une large diffusion de ces textes et surtout au niveau des agents de sécurité qui travaillent au niveau de nos frontières. Parce qu'ils sont en fait les derniers remparts. Et à mon avis, ils doivent être très bien outillés et aussi suffisamment informés pour qu'ils sachent que seuls les copies peuvent sortir et que tout ce qui est authentique ne peut pas sortir. Il est important aujourd'hui de mener des campagnes de sensibilisation, d'information au niveau de différentes couches de la communauté locale, la communauté qui vit à côté des sites. Si elles sont mieux informées, si elles sont mieux outillées, à mon avis, elles peuvent nous aider à lutter efficacement contre ce fléau. Ces communautés-là côtoient les antiquaires. Donc s'ils sont informés, ils peuvent les dire de ne pas travailler sur ces sites.
Ces lots de 900 objets confisqués, il y a un pot polychrome et il y a même des reliques datant depuis les néolithiques. Est-ce que le musée dispose-t-il des moyens appropriés pour la conservation de ces objets?
Déjà, nous avons des objets semblables qui sont entreposés. Donc ça veut dire que nous avons une expérience en la matière. Mais cela ne nous empêche pas de voir, dans le cadre de la collaboration, les appuis et les soutiens pour nous aider à mieux faire. Et aussi, je vous informe que nous venons d'avoir 3 nouvelles réserves où ces objets pourraient être entreposés. Oui, on a de la place parce que seul, ça va être difficile de résoudre ce problème-là.
Comment comptez-vous utiliser ces 900 nouveaux objets qui vont arriver au Musée national Soupé?
Faire l'inventaire et la documentation. Faire une exposition pour que les gens puissent voir les objets qui sont retournés à la maison. Cette exposition pédagogique va être aussi un moment pour nous de sensibilisation, d'information de la population.
C'était Daouda Keïta, directeur général du Musée national du Mali.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
En cette veille de Thanksgiving, de nombreux Américains prennent la route pour célébrer la fête traditionnelle avec leur famille. Justement, la route devient de plus en plus meurtrière aux États-Unis. Le nombre de morts dans les accidents routiers a atteint son plus haut niveau au premier semestre depuis 2006, indique le département des transports. Un reportage de Karina Brafadian, le récit est de Jacques Aristide.
La route a tué au moins 20 000 personnes au cours des 6 premiers mois de l'année, d'après la National Highway Traffic Safety Administration du département américain des transports. Il s'agit de la plus forte augmentation jamais enregistrée par rapport à la même période. Le secrétaire américain aux transports, Pete Buttigieg, a exprimé sa consternation.
Nous ne pouvons pas et ne devons pas accepter ces décès comme faisant simplement partie de la vie quotidienne en Amérique. Personne n'y arrivera seul. Il faudra que tous les niveaux du gouvernement, des industries, des activistes, des ingénieurs et des communautés à travers le pays travaillent ensemble jusqu'au jour où les familles n'auront plus à dire au revoir à leurs proches à cause d'un accident de la circulation.
L'excès de vitesse est l'une des raisons du nombre plus élevé des tragédies routières, d'après Adam Snyder de la Governors Highway Safety Association.
De nombreux États signalent des excès de vitesse. Je ne parle pas de 10 ou de 20 000 à l'heure au-dessus de la limite, je parle de vitesse à 3 chiffres, de 120 à 130 000 à l'heure. Donc, nous devons vraiment lutter contre la vitesse. La conduite avec des facultés affaiblies est un autre gros problème qui fait environ 10 000 morts chaque année.
Des experts sont d'avis que la pandémie de Covid-19 est aussi un facteur. Elle a fait que les autoroutes étaient moins fréquentées durant une longue période et de nombreux automobilistes en ont profité pour conduire dangereusement, comme par exemple en utilisant en même temps le téléphone portable. Carl Minges est de l'université de New Haven.
You're really relying on technology. And so communication was not done face-to-face, it was done over the phone.
Nous comptons vraiment sur la technologie. La communication ne se faisait pas en face-à-face. Elle se faisait par téléphone avec nos amis et notre famille. Elle se faisait par SMS. Et une partie de cela s'est transférée à nos véhicules. Lorsque les conducteurs reçoivent un SMS, ils pensent qu'ils doivent répondre immédiatement.
Une autre raison de l'augmentation du nombre d'accidents, c'est qu'il y a moins de policiers sur les routes. D'après Adam Snyder, à la fois la pandémie et les manifestations contre les forces de l'ordre à travers les États-Unis ont conduit à la diminution du nombre d'agents de la circulation. Le simple fait de voir la police, ajoute-t-il, peut contraindre à une conduite plus prudente.
officers on the road can really reinforce that.
Les agents de la circulation peuvent vraiment renforcer cela et s'attaquer également aux conducteurs les plus dangereux. Le policier peut stopper un conducteur ivre et procéder à une arrestation, et cela pourrait potentiellement empêcher un accident.
Des États comme le Dakota du Nord et la Virginie occidentale envisagent d'accroître le nombre d'agents de la circulation d'ici la fin de cette année. Ils vont également placarder davantage d'affiches pour rappeler aux conducteurs le code de la route et les séquelles tragiques du non-respect des règles.
C'est la fin de cette édition. Merci à l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci d'avoir suivi Le Monde Aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet dewaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. À très bientôt et bon